Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver comme chaque samedi à cette heure-ci. Vous connaissez bien le journaliste que nous allons écouter ce matin dans cette édition d'une semaine d'actualité. Il s'appelle Christophe Boisbouvier, non content d'être une des voix de la radio, c'est aussi une plume. Il vient d'écrire un livre, une enquête sur le président français et l'Afrique, Hollande l'Africain, c'est le titre de cet ouvrage publié aux éditions La Découverte. Bonjour Christophe.
Bonjour Pierre-Edouard.
Vous avez abandonné le micro pendant un moment pour écrire, non? Les auditeurs savent que vous n'avez pas abandonner le micro, mais
ça prend un peu de temps quand même. Je me suis arrêté 3-4 mois.
Oui, parce qu'il y a déjà un auditeur qui s'appelle Mohamed à Parakou au Bénin qui se demande comment vous avez pu concilier le travail d'écrivain et le travail de journaliste à la radio.
Ben voilà, j'ai arrêté 3-4 mois.
Alors Christophe, ce livre est dédié à Ghislaine et à Claude qui ont été assassinés, on le sait, hélas, le 2 novembre 2013, il y a presque déjà 2 ans, jour pour jour. Et aujourd'hui, d'ailleurs, à Paris, il se passe quelque chose.
Ghislaine et Claude, vous savez, s'ils sont morts en reportage, il y a en effet pratiquement 2 ans, c'est parce qu'ils allaient au plus près du terrain, ils se méfiaient de la parole venue de très haut, venue des grands quelqu'un, ils voulaient aller voir au plus près chez les gens. C'était ça, donner la parole aux gens. Ghislaine m'a appris aussi à voir toujours ce qu'il y a derrière, quelles sont les arrière-pensées, et notamment à résister à toutes les pressions. Voilà, c'est pour ça que ce livre leur est dédié, bien sûr, et cet après-midi, à Paris, dans le 3e arrondissement, c'est à la Maison de la Poésie. Il y aura un hommage qui leur sera rendu par plusieurs comédiens, notamment Isabelle Carré et François Morel, des musiciens aussi. Voilà, donc je crois que ce sera un très bon moment. Les gens qui veulent venir sont bien entendu, qui nous écoutent à Paris, seront les bienvenus.
Alors Christophe, ce livre, on va en parler pendant toute l'émission, c'est le livre d'une métamorphose d'un homme, François Hollande.
Oui, parce que au début, rien ne l'amène à l'Afrique. Et non seulement il ne l'amène, mais en plus, il n'a pas envie.
Il la craint.
Il n'a pas envie.
Il n'y a que des coups à prendre, disait-il.
C'est sa formule, oui. À l'époque, il est premier secrétaire. On est en 1998. Mm-hmm. Et cette même année, d'ailleurs, 4 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, il y a cette mission parlementaire que les députés décident de faire avec l'assentiment du premier ministre de l'époque, Lionel Jospin. Et François Hollande est non seulement député, mais membre de la commission défense, il est naturel qu'il y aille, il n'y va pas. Parce qu'il sent que le Rwanda, c'est chaud bouillant, quoi.
Sept jours dans le monde.
Dans la deuxième partie de l'émission, Christophe, après le flash, nous partirons pour l'Afrique, justement. Rendez-vous également avec vos messages. Dans un instant, nous partirons aussi pour la Syrie et Israël. Mais d'abord, la Turquie, après les attentats de samedi dernier, lors d'une manifestation pro-kurde à Ankara, les plus meurtriers dans l'histoire du pays, près de 100 morts. C'est tout un pays qui a ensuite manifesté son indignation. Correspondance dimanche de Jérôme Bastiot.
Des milliers de rassemblements dans tout le pays, que ce soit pour les funérailles des victimes du double attentat d'Ankara ou pour des marches ou des veilles de protestation, le plus souvent spontanées. Et des milliers de personnes à chaque fois dans les rues pour condamner cet attentat et pour dénoncer les violences préélectorales d'une manière générale. Des rassemblements organisés aussi par les étudiants ou les travailleurs en grève sous forme de sit-in sur leur lieu de travail. Une manière de dire non au terrorisme, de dire non à la répression policière et de dire non à la peur. Mais bien souvent, surtout dans le sud-est du pays où est instauré un état d'urgence de fait, la police a réprimé ces rassemblements, dispersant brutalement la foule et même parfois tirant à balles réelles, comme à Diyarbakır où une fillette a été tuée. Même si dans l'ensemble ces rassemblements se voulaient pacifiques et chacun y arborait un petit nœud noir sur la poitrine en signe de deuil, les slogans visant Erdogan et sa politique de tension et de confrontation étaient de bon ton. Courageusement, le peuple de gauche et le peuple kurde de Turquie refusent de se coucher devant la politique répressive du gouvernement AKP et de M. Erdogan, et il espère que le prochain scrutin, dans moins de 3 semaines, amènera des jours meilleurs et surtout la fin des violences.
Une semaine d'actualité, merci de votre fidélité. Et avant de vous retrouver, Christophe Boisbouvier, partons pour la Guinée afin de revenir sur un jour de vote pour l'élection présidentielle. C'était dimanche dernier. Reportage de notre envoyé spécial à Conakry, Guillaume Thibault.
À voter. Si les bureaux de vote ouvraient officiellement à 7h du matin, les électeurs, en grand nombre, se sont présentés beaucoup plus tôt.
Comme nous sommes des bons citoyens, moi je suis là depuis 4h. Nous sommes là pour mettre les choses en ordre.
Rapidement, les files d'attente s'allongent. En cause, une mauvaise organisation, notamment des listes électorales.
C'est écrit sur ma carte, bureau numéro 8. Quand j'allais au bureau, j'ai pas trouvé mon nom là-bas. Ils m'ont fait sortir encore, j'ai pas pu voter. J'ai deux chevaux.
À 10h du matin, Alpha Condé se présente dans son bureau de vote à côté du palais présidentiel. Il ne s'attarde pas, son unique message à la sortie, un appel au calme.
Un appel à tous qu'ils attendent des résultats, qu'ils évitent surtout toute provocation. C'est la Guinée a besoin de paix, de solidarité et d'unité.
Quartier d'Ixim, une heure plus tard, son principal opposant, Sélou Dalein Diallo, glisse à son tour son bulletin dans l'urne.
Je voudrais féliciter le peuple de Guinée. Il n'y a pas eu beaucoup de violence, il faut s'en réjouir et espérer qu'il n'y en aura pas après les élections.
Malgré le soleil de midi, malgré la pluie de l'après-midi et l'attente parfois plus de 2 heures, les Guinéens ont montré qu'ils savaient patienter dans le calme.
Même à 20h, on est là. Même la nuit.
Vive la patience.
Un premier tour annoncé sous tension, mais au final, une atmosphère résumée par cette doyenne.
Ça fait plaisir. C'est une journée paisible.
Alors, nous repartirons en Guinée tout à l'heure, bien sûr. On vous parle des résultats dans nos journaux. Une semaine d'actualité suite, Christophe, et un autre sujet qui va vous intéresser, avec le retour cette fois sur la mort de l'ex-président du Bénin, Mathieu Kérékou, à l'âge de 82 ans. Il avait régné 30 années durant sur le pays qu'il a d'abord dirigé d'une main de fer au nom du marxisme. Écoutez-le, le 16 janvier 1977, il lançait alors un appel à la radio car la présidence du Bénin était attaquée par le fameux, trop fameux mercenaire français Bob Denard.
Un groupe de mercenaires à la solde de l'impérialisme international aux abois a déclenché depuis ce matin à l'aube une agression armée contre le peuple béninois héroïque et sa révolution démocratique et populaire en attaquant la ville de Cotonou. À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. Nul doute que nous vaincrons.
Mathieu Kérékou, donc le 16 janvier 1977, c'est toute une époque, Christophe.
Oui, c'est l'époque de la guerre froide. Kérékou, à ce moment-là, c'est un dictateur rouge, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a choisi le camp communiste, parti unique. Les opposants sont en prison, ils sont torturés. Hein. Et puis arrive cette conférence nationale de février 90, et là, c'est extraordinaire, il nous fait une mue totalement incroyable. Beaucoup de gens le prenaient pour un militaire un peu borné, qui n'avait pas beaucoup de sens politique, et c'est tout le contraire que l'on voit avec le Kérékou de ce moment de cette conférence. Il accepte qu'elle soit souveraine, il demande pardon au peuple pour les crimes qu'il a commis, et de fait, du coup, il rebondit, c'est-à-dire que certes, il perd le pouvoir pendant 5 ans, c'est Nicéphore Soglo qui devient président, mais il prend sa revanche en 96, c'est Kérékou 2, comme disent les Béninois, et il devient un exemple de démocratie, puisque c'est grâce à cette conférence nationale souveraine au Bénin qu'un certain nombre d'autres conférences vont avoir lieu et qu'un vent de liberté et de multipartisme, voire même d'alternance, va souffler sur l'Afrique.
Alors continuons, Christophe, à parler de François Hollande. Avant de parler de son élection et de la politique africaine de François Hollande, il faut préciser que même en tant que premier secrétaire du Parti Socialiste, il fréquentait en quelque sorte pas mal d'Africains, enfin de responsables africains ou de responsables d'opposition.
Oui, alors on a entendu là, tout à l'heure avec notre envoyé spécial Guillaume Thibault les élections en Guinée. On a vu combien les gens avaient peur des violences et combien en effet ce pays est marqué par cette longue dictature militaire de Sékou Touré. C'est une très jeune démocratie très fragile. Et alors ce qui est frappant en effet, c'est que le président sortant, donc Alpha Condé, était vraiment ces dernières années un vieux camarade socialiste de François Hollande. Ils se connaissent depuis 10-15 ans. Attendez, je réfléchis, mais depuis les années 90, 98, 99. Donc vous voyez, ça fait 16-17 ans. Il se tutoie, il s'échange des SMS, toujours aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, quand Alpha Condé passe à Paris entre New York et Conakry pour un transit de 3 jours, il envoie un SMS à François Hollande, je suis là. Et il n'y a plus de protocole, à ce moment-là, il est reçu dans les 2-3 jours qui suivent à l'Elysée. On dit souvent que François Hollande n'a plus de réseau, c'est ce que dit d'ailleurs Alpha Condé. François Hollande n'a pas de réseau, donc pas de passé africain. C'est pas si simple. Voilà, il y a cet amical socialiste qui joue un certain rôle.
Et vous consacrez quelques pages à la relation entre François Hollande et Laurent Gbagbo, également très importante.
Tout à fait, hein, c'est sans doute d'ailleurs le sujet sur lequel il a été le plus embarqué contre son gré quand il est premier secrétaire du Parti Socialiste, parce que Laurent Gbagbo, nous sommes dans les années 98-2000, est très en vue, très apprécié par le PS français, il est souvent à Paris, il est dans l'opposition, hein, à Conan Bédier, et ensuite François Hollande le soutient ouvertement, il va dans les médias en octobre 2000 pour dire voilà,
lors de la présidentielle,
lors de la présidentielle à laquelle n'ont pas pu se présenter Bédier et Ouattara, il soutient malgré tout le candidat Gbagbo en disant c'est lui qui a gagné, c'est lui qu'il faut soutenir. Et alors après, il va s'en, en effet, il va s'en mordre les doigts. Il y a plusieurs personnes. On découvre quand on gratte un peu, on découvre un certain nombre de personnes importantes dans l'entourage de François Hollande. Je parle beaucoup d'Hubert Védrine à propos du Rwanda, mais je devrais parler aussi de, j'en parle dans le bouquin, de Renaud Vignal, le défunt Renaud Vignal, qui était ambassadeur, un grand diplomate français, l'un des créateurs de la section CFDT au Quai d'Orsay, qui lui rentre d'Abidjan, où il est quasiment expulsé par Laurent Gbagbo, en disant il y a des escadrons de la mort, c'est un régime assez proche de ce que faisaient les nazis dans les années 33, 34, 35. C'est très violent ce que dit Vignal dans les communiqués qu'il envoie à Rudolf Ferrino au siège du PS. Et voilà, des gens qui vont peser dans la décision de François Hollande. Il y a l'assassinat de Jean Hélène en octobre 2003. Il y a l'enlèvement de Guy-André Kieffer en avril 2004. Et voilà, à ce moment-là, c'est la rupture entre Hollande et Gbagbo.
RFI. Avant de reparler de l'Afrique avec vous, Christophe, évoquons les tensions entre Palestiniens et Israéliens ces derniers jours. Fortes tensions. La mort mardi de trois personnes dans deux attentats anti-israéliens, dont la première attaque à l'arme à feu dans un bus a réveillé le souvenir des attentats meurtriers de la deuxième intifada à Jérusalem-Est notamment. Écoutez ce reportage de notre correspondante Muriel Parade.
Une simple route sépare le quartier de Jabel el-Moukaber de la colonie juive d'Armon Anatsiv. Mardi, deux Palestiniens sont sortis de leur quartier et ont attaqué un bus dans la colonie. Depuis, la police israélienne a dressé un barrage pour contrôler les voitures. Elle devait fermer Jabel el-Moukaber avec des blocs de béton. Atidal, la soixantaine, habite à l'entrée du quartier.
L'année dernière, les Israéliens ont bloqué la rue avec des blocs de béton. Ça nous touche dans notre vie quotidienne. Les médecins ne peuvent pas passer. Les enfants sont obligés d'aller à pied à l'école.
Dans un petit supermarché, Yassine Abou Jamal fait ses courses avec son petit-fils. Enfermer les Palestiniens n'est pas une solution, dit-il. Utiliser la manière forte n'entraînera que de la violence.
Je pose la question lorsque mon petit-fils se serre contre moi en tirant sur ma chemise, parce qu'il a peur, parce qu'il voit des policiers et des colons israéliens avec des armes. Comment peut-il grandir avec la paix dans son cœur ?
Il y a encore quelques jours, les habitants de la colonie juive faisaient leurs courses en face à Jabel el-Moukaber et les Palestiniens allaient au parc côté israélien. Aujourd'hui, personne ne se risque à traverser la route qui les sépare.
La situation sur place est évidemment à suivre dans nos journaux. Suite d'une semaine d'actualité en Syrie cette fois, où l'armée du régime regagne du terrain grâce évidemment au soutien des Russes et au soutien également des Iraniens. Des centaines de soldats venus de Téhéran ont débarqué ces derniers jours au Liban pour se rendre à Alep. Correspondance de Beyrouth, jeudi, signée Paul Khalife.
L'arrivée des contingents iraniens s'est accélérée ces derniers jours et des centaines de soldats et d'officiers auraient déjà été déployés sur différents fronts. Selon des sources bien informées, les militaires iraniens arrivent par l'aéroport Bassel el-Assad à Hmeymim, dans la province côtière de Latakia. Une partie de cette base est actuellement utilisée par l'aviation russe, qui y déploie 34 chasseurs et bombardiers et une vingtaine d'hélicoptères. Le trafic aérien civil a été interrompu depuis plusieurs jours dans cet aéroport international en raison des activités militaires qui s'y déroulent. Les contingents iraniens seraient acheminés vers Alep, où une vaste offensive serait en préparation à l'est et au nord-est de la ville contre le groupe État islamique, le Front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda et d'autres mouvements islamistes. Des unités iraniennes se battraient également aux côtés de l'armée syrienne dans les provinces d'Idlib et de Hama, où les troupes loyalistes ont lancé une offensive majeure il y a une semaine. Diverses sources affirment que les Iraniens auraient déployé entre 7000 et 10000 hommes en Syrie. Ces informations interviennent alors que l'agence de presse iranienne Tasnim a rapporté ce mercredi que deux généraux des gardiens de la révolution ont été tués au combat en Syrie ces deux derniers jours. Un autre commandant de ce corps d'élite, le général Hussein Hamadani, avait été tué la semaine dernière près d'Alep.
L'actualité internationale, c'est aussi la décision du président américain Barack Obama de maintenir des soldats américains en Afghanistan l'année prochaine, en 2016, soit à peu près 9 800 soldats. Selon Washington, l'armée afghane est toujours incapable d'assurer la sécurité du pays. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de notre ami Christophe Boisbouvier. Nous allons repartir en Afrique avec vous, Christophe. On continue l'évolution de la situation pour François Hollande. On en était à l'opposition. On en était à son désintérêt pour l'Afrique auparavant. Là, parlons de la campagne de 2012 et avec une promesse que vous analysez au fil des pages, je romprai avec la France-Afrique. C'était le 58e engagement de campagne, c'est ça, de son programme?
Oui, alors, ce qui caractérise un petit peu cette campagne, bon, c'est les gens de son entourage, hein, les gens qu'il a pris pour sa campagne, et notamment quelques personnes qui continuent de compter aujourd'hui. Alors, il y a, par exemple, Thomas Mélogno, qui est le monsieur Afrique du Parti Socialiste, et qui va devenir le numéro 2 de ses conseillers à l'Élysée. Il a fait un mémo pour la Fondation Jean Jaurès. Il y a Laurent Dersu, ça c'est moins connu ça. Il a été journaliste, comme vous et moi, il était à La Croix, puis il est devenu haut fonctionnaire au Quai d'Orsay. Il a écrit chez Terra Nova, sous pseudo, un mémo pour François Hollande aussi, sur la politique africaine. Et il y a encore quelqu'un, c'est pas connu non plus beaucoup, ça, qui va jouer un rôle pendant cette campagne électorale, c'est l'avocat William Bourdon, qui donc est assez impliqué sur un certain nombre de dossiers africains, qui est notamment très actif avec une ONG qui s'appelle Sherpa, et qui est l'un des initiateurs de l'affaire des biens mal acquis contre les trois chefs d'État et leurs familles au Congo-Brazzaville, au Gabon et en Guinée équatoriale. Voilà, ces hommes jouent un rôle important pour essayer de pousser François Hollande vers ce qu'ils appellent la mort de la France-Afrique, c'est-à-dire la fin de ces réseaux à forte odeur d'argent.
Mais c'est le moins qu'on puisse dire, est-ce qu'il y croyait vraiment? Parce qu'en lisant votre livre, on s'aperçoit qu'il y a une certaine duplicité, en fait, avant, à la lumière évidemment de ce qui s'est passé après.
Oui, alors, il y a plusieurs choses. Dans ce qu'on appelle la France-Afrique, il y a cette partie affairiste et clientéliste qui, à ma connaissance, pour l'instant, ne survit pas au départ de Nicolas Sarkozy. Il y a, jusqu'à preuve du contraire, pas de mallette qui circule, par exemple, entre l'Afrique et l'Élysée aujourd'hui.
Les fameuses mallettes.
Peut-être que racontait Robert Bourgie du temps de Jacques Chirac. Je n'ai pas vu l'équivalent non plus d'un Patrick Balkany ou d'un Robert Bourgie dans l'entourage de François Hollande, mais peut-être que les faits vont me démentir dans les semaines et les mois qui viennent. Hein. C'est pas fini le quinquennat de François Hollande. En revanche, là où sa promesse de rupture avec la France-Afrique est sujette à caution, c'est quand on voit qu'il n'a pas touché à deux fondamentaux de la relation franco-africaine, que sont les bases militaires françaises en Afrique et le franc CFA, cette parité fixe entre l'euro et le franc CFA.
Alors on va revenir dans la deuxième partie de l'émission à sa politique africaine depuis son élection en 2012, Christophe, mais il faudrait déjà parler d'un pays qui est assez présent, c'est le seul du continent africain dans l'esprit de François Hollande, c'est l'Algérie.
Oui, alors l'Algérie, ça tient à deux choses. Hein. Ça tient d'abord à son propre passé. Il faut pas oublier que son père, Georges Hollande, a été, quand il était médecin à côté de Rouen, assez proche de l'OAS, hein, qu'il a milité pour le candidat Tixier-Vinancourt en 65, dont le directeur de campagne était Jean-Marie Le Pen, etc.
L'Algérie française, donc.
L'Algérie française. Donc, on a en 78 un jeune étudiant, François Hollande, qui est à l'ENA, qui demande à aller faire son stage en ambassade en Algérie. Et ça, c'est pas innocent. Et j'ai retrouvé en effet un témoin de l'époque, un diplomate qui était en poste à l'ambassade de France à Alger, qui a vu débarquer le jeune énarque et qui dit oui, je pense que si François Hollande vient en Algérie à l'époque, c'est d'une certaine façon, entre guillemets, pour tuer le père. Hein. Donc ça, c'est le premier épisode. Et j'ai retrouvé un petit peu ce qu'il a fait à l'époque en Algérie. Il en parle très peu, mais bon, on retrouve des témoins. Le deuxième épisode, c'est en 2005-2006. Ça, c'est un tout autre François Hollande, qui est premier secrétaire du Parti Socialiste et qui vise 2007. À cette époque, il espère encore pouvoir être candidat à la présidentielle de 2007. Et là, il comprend qu'il y a un électorat franco-algérien qui peut avoir un poids important dans la présidentielle de 2007 et qu'il faut séduire. Et la séduction de cet électorat peut passer par Alger, par une bonne relation avec Abdelaziz Bouteflika.
Christophe, on va se retrouver dans 3 minutes. On va continuer à parler de François Hollande et de l'Afrique. On va écouter quelques nouvelles du monde et on se retrouve donc dans un instant. À tout de suite. Merci pour ces nouvelles du monde. On se retrouve pour revivre 7 jours d'actualité sur la planète avec la rédaction et notre invité.
Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Notre invité, notre confrère Christophe Wabouvier, qui nous donne rendez-vous chaque jour avec son invité africain. Il vient d'écrire Hollande, l'Africain, un livre publié aux éditions La Découverte. Dans quelques minutes, nous partirons pour la Guinée ou pour le Rwanda, par exemple. Mais pour le moment, l'actualité française est une grosse manifestation de policiers devant le ministère de la Justice, mercredi, place Vendôme, à Paris, bien sûr. Les policiers protestent contre le laxisme, selon eux, des magistrats. Reportage de Guillaume Deltaille.
C'est avant tout à la garde des Sceaux que les policiers se sont adressés.
Nous avons l'intention de dire qu'il y a, parce que des individus, madame, ont été remis en liberté.
Christiane Taubira, qualifiée par certains de ministre du laxisme, la mise en cause n'est pas toujours aussi frontale, mais pour tous, à l'instar de Rocco Contento du syndicat SGP Force Ouvrière, l'agression de la semaine dernière aurait dû être évitée.
Quand il n'est pas revenu dans sa prison, on a découvert tout d'un coup que c'était un individu dangereux. Mais tout le monde le savait, donc on ne comprend pas pourquoi ce type-là a été libéré en permission. C'est intolérable.
Bougie à la main, les policiers ont rendu hommage à leurs collègues, mais l'agression est en fait une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le malaise est plus général. Cédric Boyer est membre du syndicat Alliance Police Nationale.
Nous, tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir assurer la sécurité, mais surtout de faire des vraies missions de policiers. Aujourd'hui, on est consacré à des missions comme garder des portes, garder des détenus en hôpital. Ce ne sont pas des missions de police.
Un message que les syndicats pourront porter la semaine prochaine au chef de l'État. Conformément à leurs souhaits, ils seront reçus par François Hollande.
Christophe, nous allons revenir à la France et à l'Afrique aussi. Écoutez ce que disait jeudi sur notre antenne Brice Makosso, qui représente au Congo-Brazzaville le collectif pour l'alternance démocratique en Afrique. Tournons la page. Attention, il faut tendre l'oreille.
Nous voudrions avoir une précision très claire sur la position de la France aujourd'hui sur le cas typique du Congo. Pour le cas du Burkina Faso, la France peut exprimer de manière très claire. Les principes devraient être les mêmes pour le cas du Burkina Faso et le cas du Congo-Brazzaville. Nous avons l'impression que la France est hésitante. Elle est ambiguë, elle est restée dans les généralités. La vice-présidente François Hollande nous attendait une déclaration solennelle condamnant le coup d'État constitutionnel qui est en cours actuellement à Brazzaville. Il ne faudrait pas attendre qu'il y ait mort d'homme pour déclarer des sanctions. Il faudrait sanctionner tous les leaders qui font l'apologie du changement de la Constitution au niveau du Congo-Brazzaville. Un diplomate nous disait qu'il y a la diplomatie des intérêts et la diplomatie des principes. Et nous avons peur que nous soyons dans le cas d'une diplomatie des intérêts entre la France et le Congo-Brazzaville.
Propos recueillis par Florence Maurice. Une semaine d'actualité donc en Afrique. Nous y sommes. On va passer une demi-heure sur le continent avec vous, Christophe. Alors avant de répondre peut-être à cette interrogation de Brice Makosso, il faut parler de l'installation, vous le faites dans le livre, de l'équipe, de la nouvelle équipe africaine de l'Elysée. Vous dites des jeunes lions et des vieux crocodiles, c'est ça?
Oui.
Des gens expérimentés et d'autres pas?
Oui, parce que en fait François Hollande ne connaît pas bien les dossiers internationaux quand il arrive à l'Elysée, on a dit pourquoi, notamment pour l'Afrique, mais pas seulement. Et donc, il hésite un peu, peut-être manque-t-il d'assurance en lui. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il prend Laurent Fabius aux affaires étrangères. C'est un ancien Premier ministre expérimenté, qui a 10 ans de plus que lui, etc. Et Jean-Yves Le Drian, donc,
à la
Défense. Mais en même temps, il veut un souffle nouveau, d'où Pascal Canfin, l'écologiste au développement, et cette jeune équipe, Hélène Le Gall et Thomas Mélogno à l'Elysée, à l'image, à mon avis, de la politique qu'il fait souvent, pas seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur. Il y a deux fers au feu, donc des jeunes lions et des vieux crocodiles. Et alors, le plus vieux des vieux crocodiles, entre guillemets, c'est évidemment le général Puga. C'est vraiment un personnage intéressant, parce que c'est pas François Hollande qui le prend comme chef d'état-major particulier à l'Elysée, c'est Nicolas Sarkozy, 2 ans plus tôt qu'il l'a nommé à ce poste, et François Hollande qui le garde. Il hésite, il le garde pendant 3 mois, il se dit, je me donne jusqu'à... On est en mai 2012, je me donne jusqu'à juillet-août, quoi, pendant les vacances, à ce moment-là, je prendrai une décision. Et finalement, Benoît Puga, avec beaucoup d'habileté, c'est presque un abbé de cour, sa façon de se présenter, de se positionner à l'Elysée, réussit à garder la confiance de François Hollande.
Alors, pour un programme précis de la part de François Hollande? Il veut vraiment changer les choses?
Oui. Je pense qu'au début, il essaye vraiment d'imprimer sa marque, et on le voit notamment sur l'affaire du Congo-Kinshasa, où il n'a pas envie d'aller au sommet de la francophonie qui s'y tient en octobre 2012.
On se souvient de cette rencontre glaciale avec Kabila.
Absolument, oui. On le voit aussi d'une certaine façon sur la Centrafrique, parce que en décembre de cette même année 2012, donc c'est la première offensive des Séléka venus du Nord-Est, sur Bangui, et François Bozizé appelle François Hollande à l'aide, et François Hollande lui dit ce temps-là est révolu. Et finalement, donc de fait, trois mois plus tard, François Bozizé va tomber. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de François Hollande, la Centrafrique, c'est encore quelque part dans sa tête les diamants de Bokassa et la France-Afrique. Voilà. Donc, et je pense qu'après la chute de Bozizé et tout ce qui va survenir, la guerre civile dans Bangui, il va s'en mordre les doigts peut-être d'avoir lâché Bozizé.
Alors Brice Macosso du collectif Tournons la Page parlait de diplomatie des intérêts et diplomatie des principes à propos du Congo-Brazzaville, son pays. Que pense François Hollande de ce qui se passe aujourd'hui à Brazzaville?
Alors, je pense que c'est aussi lié à ce qui s'est passé au Burkina Faso il y a un an. Brice Macosso y fait allusion d'ailleurs. Mm-hmm. On a là donc un peu le même cas de figure, c'est-à-dire un président qui veut modifier les règles du jeu pour avoir un troisième mandat. Alors, sur l'affaire du Burkina Faso, François Hollande est assez discret jusqu'à la chute de Blaise Compaoré. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'officiellement, il ne dit rien contre le projet de Blaise Compaoré, mais en réalité
de rester au pouvoir,
mais en réalité, il passe beaucoup de coups de fil. Quand il passe à Abidjan en visite officielle trois mois plus tôt, il demande à Alassane Ouattara, qui est très proche de Blaise Compaoré, d'essayer de lui parler pour justement qu'il ne s'accroche pas à cette idée de troisième mandat. Il apprendra plus tard que Alassane Ouattara n'a pas fait passer le message. Et il écrit une lettre. Alors il écrit une lettre à Blaise Compaoré, c'est trois semaines avant la chute de celui-ci, pour l'inviter à renoncer donc à son projet et à prendre le fauteuil d'Abdou Diouf, qui va quitter un mois plus tard
la francophonie,
voilà. Mais cette lettre, il ne la rend pas publique, François Hollande. C'est la stratégie de la lettre discrète. Et alors, le jour de la chute, il fait fuiter la lettre dans Jeune Afrique pour montrer à l'opinion burkinabé et française qu'il est capable de monter dans le train de l'histoire. Donc c'est la politique des deux fers au feu. Et ensuite, une fois que Blaise Compaoré est tombé, alors là, il en fait des tonnes, si je puis dire. C'est un discours devant la Fondation Chirac, c'est un discours devant justement le sommet de la francophonie à Dakar, où il dit qu'il ne faut pas toucher aux règles du jeu quand on veut un troisième mandat, etc. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, dans l'affaire Denis Sassou Nguesso, il n'a pas de très bon rapport, François Hollande, avec Denis Sassou Nguesso. J'imagine que c'est une double stratégie, un peu à l'image de ce qu'il a fait avec Blaise Compaoré, c'est-à-dire il appuie un coup sur le frein, un coup sur l'accélérateur, mais sans que ça se sache
trop. Attention au dérapage.
Attention au dérapage, et il attend l'opportunité pour agir.
Sept jours en Afrique.
Allez Christophe, repartons en Guinée pour évoquer le scrutin présidentiel de dimanche dernier, dont les résultats sont à suivre évidemment dans nos journaux aujourd'hui. Nous avons voulu écouter les Guinéens, des Guinéens, tels ceux qu'a rencontré notre envoyé spécial Guillaume Thibault à Conakry.
On est en Guinée, plus présentement à Corentin, le quartier chic, très très populaire.
Les baraques sont en bois et en tôle, les marchands ont même le sol. La vie n'est pas simple dans ce quartier, mais la fierté ici, c'est de vivre en paix.
La Guinée, nous t'aurons. La Guinée,
Corentin, cela veut dire nous ici on est unis, tout va bien entre nous quoi.
Abdoulaye Cissé écoute les jeunes, lui a vécu les crises politiques depuis les années 60.
La classe politique guinéenne, mais on ne peut pas gouverner un cimetière, est-ce que vous comprenez? Donc, ils n'ont qu'à se donner la main pour que le pays avance. C'est ça, mon dernier mot.
Mademoiselle Ketambalo rentre de sa journée de travail. Elle aussi appelle les politiques au dialogue pour éviter tout conflit.
L'élection, c'est comme un examen. Tout le monde ne peut pas avoir à la fois. Ils doivent s'entendre pour qu'on n'aura pas de pagaille.
Réparateur bidouilleur de tout matériel électrique, Salif Camara aspire à un avenir meilleur, comme le chante le groupe vedette du quartier, les Espoirs de Koronti.
Le président actuellement qui a été élu, je pense qu'il doit faire preuve de sagesse, d'appeler ses frères de l'opposition. La rue ne peut rien régler. C'est autour d'une table qu'on peut trouver la solution à tout problème. Vraiment.
Fatigué par la politique.
On est fatigué de la politique.
Fatigué, vraiment, désolé.
Voilà. Fatigué par la politique.
Guillaume Thibault Conakry, RFI.
À suivre donc dans nos journaux. Partons pour le Rwanda maintenant, mon cher Christophe, où les députés ont approuvé les grandes lignes d'un projet de révision de la Constitution qui, entre autres choses, supprime la limitation du nombre de mandats présidentiels. Kigali, Stéphanie Aglietti.
Selon le projet de réforme, l'article 101 qui énonce que le mandat du président rwandais n'est renouvelable qu'une seule fois serait modifié afin que, je cite, « le président de la République puisse être réélu pour plusieurs mandats ». Lors de cette séance, une vingtaine de députés a pris la parole. Aucun ne s'est opposé à une réforme de l'article 101. L'un d'eux, Jean-Marie Vianney Gatabazi, a toutefois objecté que la limitation du nombre de mandats présidentiels devrait être levée seulement pour Paul Kagame, comme l'assure-t-il, le réclame la population rwandaise. Un autre député a quant à lui demandé à ce qu'un article pouvant permettre au Sénat de destituer, je cite, un éventuel mauvais président puisse être ajouté. Nous ne savons pas ce qui peut se passer dans 30 ans, a-t-il argué. Les députés ont également débattu de modifications mineures d'autres articles de la Constitution. Et dans cette chambre, exclusivement dominée par le FPR et ses alliés, malgré une abstention, la totalité des députés a jugé pertinent le projet de révision. Un résultat qui laisse peu de place au suspense quant à l'issue de la prochaine étape du processus, à savoir le vote du texte dans les deux chambres du Parlement.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez évidemment à nous écrire. Un salut particulier comme chaque samedi. Alors aujourd'hui à Bamana, à Joselito, à Sédou, à Paris. Bonjour à Siré, à Dakar, à Hassan en Guinée, à Diallo et Badra Ali à Bamako, ainsi qu'à Jimmy qui vit dans l'Ontario. Suite d'une semaine d'actualité en Afrique avec Christophe Boisbouvier, auteur de Hollande l'Africain, un excellent livre publié aux éditions La Découverte. Alors, il y a le François Hollande, et ça vous l'expliquez très bien dans le livre, d'avant le 11 janvier 2013, intervention au Mali, et le François Hollande après.
Oui, c'est la réelle politique qui revient, qui le rattrape. Hein. Il voulait pas être gendarme de l'Afrique, il envoie la troupe au Mali, puis 11 mois plus tard en Centrafrique. Il ne voulait pas faire alliance avec des chefs d'État beaucoup trop autoritaire à ses yeux. On pense notamment au Tchadien Idriss Déby, à qui il reprochait l'élimination, la disparition du numéro 1 de l'opposition, Ibni Oumar Mahamat Saleh en février 2008, et à partir de février 2013, quand il faut aller débusquer les djihadistes dans le massif des Iforas au nord Mali et qu'il faut l'alliance avec l'armée tchadienne, à ce moment-là tout change. Hein. Et c'est le même François Hollande d'ailleurs qui, un an plus tard, en 2014, reçoit à bras ouverts à l'Élysée, le Joseph Kabila qu'il avait ostensiblement snobé 18 mois plus tôt à Kinshasa.
Donc il y a une rupture très très nette, et c'est rare dans la vie politique d'un homme, fut-il chef d'État, d'avoir une rupture aussi nette.
Je pense que chez François Hollande, il y a la conscience que les affaires intérieures ne marchent pas bien. Je pense notamment au chômage qui ne baisse pas en 2013, en 2014. Et que sur la scène internationale, en revanche, il a l'occasion de montrer quelque chose. Et notamment de montrer que lui aussi peut prendre des responsabilités au nom de la France, qui est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Il pense déjà à l'époque, à mon avis, à 2017, où il espère pouvoir se représenter.
Et vous parlez même, Christophe Boisbouvier, de Hollande impérial. C'est-à-dire celui qui dicte sa loi au Mali, par exemple, qui dit, voilà, il faut des élections très rapidement, par exemple.
Oui, il se comporte un peu comme le patron protecteur, hein, c'est-à-dire qu'il imprime le rythme électoral aux Maliens. Pour Diang Koundé Traoré, qui est le président de la transition, il est trop tôt de voter en juillet, il faut attendre octobre. Et François Hollande dit carrément, lors d'une émission télévisée, ce sera juillet, et là-dessus, je serai intraitable.
Alors vous, évidemment, il y a l'opération Serval au Mali, Sangaris en Centrafrique, Barkhane plus largement, et vous développez aussi la question de la place des militaires aussi dans la politique africaine de la France aujourd'hui.
Oui, alors il y a deux hommes qui jouent un rôle important là-dedans, c'est Jean-Yves Le Drian, on en a dit un mot tout à l'heure, qui est un vieux copain depuis 30 ans, etc., avec Jean-Pierre Mignard et quelques autres, c'est les transcourants des années 80. Et puis il y a un homme peu connu du grand public, mais très puissant, qui s'appelle Cédric Lewandowski, que notre confrère Le Monde appelle Fokardovski.
C'est tout dire.
Le directeur de cabinet civil et militaire de Jean-Yves Le Drian, un homme très réseauté. Il a des meilleurs carnets d'adresses de Paris. Et il a montré tout son savoir-faire pendant l'offensive Serval de janvier, février, mars 2013. Les grandes décisions stratégiques se prenaient dans son bureau avec tous les chefs d'état-major français.
Alors quelque chose a peut-être changé parce que Jean-Yves Le Drian se présente aux élections régionales en France et il sera obligé... théoriquement, de choisir entre son poste de conseiller régional ou président du conseil régional de Bretagne ou est ministre.
Absolument. Alors, il ne faut pas exagérer non plus le rôle des militaires. Le patron reste Hollande. Et on voit, par exemple, dans la décision d'envoyer la troupe au sol au Nord Mali en janvier 2013 avec Serval, on voit que Fabius a son poids aussi. Et que c'est parce que, justement, Fabius, qui est un civil, donne son accord pour l'envoi de la troupe que Hollande se décide à envoyer la troupe malgré les préventions, les inquiétudes notamment de son cabinet, d'Hélène Le Gall, de Thomas Mélogneau, parce que il sent que si un civil expérimenté comme Laurent Fabius est du même avis que Jean-Yves Le Drian, ça pèse dans son esprit.
Alors il y a le François Hollande aussi face à des chefs d'État africains qui ne veulent pas quitter le pouvoir. On parlait tout à l'heure du Burkina Faso, du Congo-Brazzaville, mais il y a aussi ceux d'avant en fait que vous citez dans le livre, Paul Biya au Cameroun par exemple. François Hollande doit aujourd'hui traiter avec eux. Quelle est sa position par rapport à ces mandats qui n'en finissent pas ? Faut rappeler, vous le rappelez aussi dans le livre, que Paul Biya est au pouvoir depuis 1982.
Il est dans l'équilibre permanent. C'est-à-dire que quand il va voir Joseph Kabila à Kinshasa, la veille, il est dans un pays où il y a eu des élections démocratiques et l'alternance, c'est le Sénégal. Quand il va voir Paul Biya au Cameroun, c'était en juillet dernier, la veille, il était dans un pays démocratique où il y a eu alternance, il y a quelques années, c'est le Bénin.
C'est-à-dire le jeu d'équilibre.
C'est permanent. Hein, on le savait déjà du temps où il était premier secrétaire du Parti Socialiste. Et il est toujours dans cet entre-deux, avec souvent deux cartes dans sa poche. Hein, on l'a expliqué par exemple dans l'affaire du Burkina Faso, mais c'est pareil au Mali, c'est-à-dire qu'il a le plan A, pas de troupes au sol, il le dit à l'ONU en septembre 2012, mais quand même, on ne sait jamais. Donc il demande à l'état-major de lui faire des plans pour l'éventuel envoi de troupes au sol.
Suite d'une semaine d'actualité en Afrique, Christophe, les États-Unis vont envoyer 300 soldats au Cameroun à la demande du gouvernement. Les Américains vont soutenir la lutte contre Boko Haram. Washington, mercredi, Anne-Marie Capomaccio.
Dans une lettre envoyée aux deux chambres du Congrès, comme la Constitution l'y oblige, Barack Obama précise la mission des troupes américaines qui ont commencé à se déployer à Garoua, dans le nord du Cameroun, à la frontière avec le Nigeria, un déploiement à la demande des autorités de Yaoundé. L'objectif est de renforcer la lutte régionale contre les terroristes de Boko Haram. 300 hommes au total pour une mission de renseignement dont la durée n'a pas été déterminée, comme l'explique Josh Ernest, le porte-parole de la Maison-Blanche.
Ce déploiement a pour mission de conduire des missions de renseignement et de reconnaissance aérienne. Et je souhaite être clair sur la mission des militaires américains déployés au Cameroun. Ils sont armés, mais ils sont armés pour leur protection et pour assurer la sécurité des troupes. Ils n'ont pas de mission de combat.
Le porte-parole de Barack Obama assure que cette mission était en préparation depuis le voyage du président des États-Unis en Afrique l'été dernier, avant les attentats meurtriers de ces derniers jours dans le nord du Cameroun. L'objectif, dit-il, est de renforcer les capacités régionales en y apportant les moyens sophistiqués de l'armée américaine. Les Marines vont travailler en étroite coopération avec l'armée camerounaise.
Suite d'une semaine d'actualité, revenons, Christophe, pour terminer ce voyage sur la page d'histoire du Bénin qui se ferme après la mort mercredi de Mathieu Kérékou. Olivier Roger.
Le 26 octobre 1972, Mathieu Kérékou prend le pouvoir par la force. Deux ans plus tard, il proclame le socialisme scientifique comme seule voie acceptable de développement.
Le fondement philosophique et le guide de notre action révolutionnaire, c'est le marxisme-léninisme.
En janvier 77, des mercenaires emmenés par le français Bob Denard débarquent à l'aéroport de Cotonou. Kérékou résiste.
La révolution ou la mort, mort aux mercenaires, mort aux traîtres, prêts pour la révolution, la lutte continue.
Le coup d'état échoue, mais le Bénin s'enfonce dans la dictature du parti unique et le dogmatisme économique. Le pays est exsangue, c'est alors que le caméléon change de couleur. En 1990, Kérékou se convertit à la démocratie.
Nous prenons à témoin le peuple béninois tout entier en affirmant solennellement
notre engagement à faire mettre en œuvre toutes les décisions issues des travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation.
Sa conversion est totale. Après la Conférence nationale, Mathieu Kérékou perd les élections au profit de Nicéphore Forsoglo. 5 ans plus tard, en 96, il revient et remporte la présidentielle, se posant en rassembleur.
Je rendrai public la formation d'un gouvernement d'union nationale inspiré d'aucun esprit de revanche.
Mathieu Kérékou restera 10 ans encore au pouvoir. Il prend sa retraite en 2006. L'ancien putschiste est devenu en 40 ans l'icône de la démocratie béninoise.
La nation est devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté.
Retour à l'Afrique de 2015 avec vous, Christophe. Vous développez aussi dans ce livre, qui est très riche, Hollande l'Africain, l'aspect économique de la politique de François Hollande en Afrique. Comme son prédécesseur, il est aussi un VRP.
Oui, on entendait justement cette décision de Barack Obama d'envoyer les Marines au Nigeria. Si François Hollande est si actif sur ce dossier nigérian, avec notamment des voyages au Nigeria, des sommets organisés avec un chef d'État nigérian et un chef d'État camerounais à Paris, etc., c'est parce que le Nigeria, c'est l'un des principaux points d'appui de ce que la diplomatie économique veut être aujourd'hui avec Hollande et Fabius. Dans l'esprit, il y a Védrine qui a fait un rapport là-dessus il y a 2 ans, dans l'esprit des dirigeants français, le nouvel Eldorado africain peut permettre la création de 200 000 emplois en France.
Vous vous demandez d'où vient ce chiffre, d'ailleurs, il n'y a pas que vous. Hein,
200 000 emplois, alors ils font des ratios à Bercy qui leur permettent de dire, voilà, avec tant de contrats en plus, on arrive à cela. L'Afrique rentre dans la stratégie de Hollande pour garder le pouvoir en 2017.
Alors, développement de la diplomatie commerciale en Afrique comme ailleurs, d'ailleurs, mais aussi baisse du budget alloué au développement.
Oui, c'est le paradoxe. Absolument. À tel point que l'année dernière, pour la première fois, les députés socialistes, les sénateurs socialistes ont fait la mauvaise tête. Et ont fait passer des amendements pour remonter le niveau du budget, le niveau du développement dans le budget français. Mais non, rien n'y fait pour l'instant. J'ai posé la question à Laurent Fabius, qui m'a dit malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas.
Alors, est-ce qu'on aura un jour, c'est une question qui revient souvent chez nos auditeurs, Ismaël par exemple se demande pourquoi la France intervient en Afrique, défend-elle son intérêt ou les régimes en place? Est-ce qu'il y aura un jour une relation, des relations normalisées entre la France et les pays africains?
On parle beaucoup d'économie, on dit toujours, c'est d'ailleurs Fabius qui raconte cette histoire, un jour il y a un collègue sud-américain qui lui dit, on sait bien que si vous les Français vous êtes intervenus au Mali c'est pour des raisons économiques, et Fabius lui répond, mais dis-moi, quelles sont les richesses du Mali que la France exploite aujourd'hui? En fait, je pense que ça dépend du pays où on se place. Le Nigeria, oui, c'est économique. Le Mali, le Tchad, c'est autre chose. C'est la politique, c'est la stratégie. C'est-à-dire que la France continue de penser, depuis De Gaulle et bien avant évidemment, qu'elle est plus grande que son territoire et ses 65 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'elle a une mission dans le monde. Et Hollande, très inspiré en cela par Védrine, mais aussi par son propre passé auprès de Mitterrand à l'Élysée, pense...
Dont vous relevez au passage, Christophe, à propos de Mitterrand, les quelques écrits, le passé colonialiste jusqu'en 1957.
Tout à fait. Hollande pense qu'il est le gardien de cette tradition et qu'il n'a pas le droit de, comme lui dit Védrine, de transformer la France en une grande Suisse. Et le dernier terrain d'action de la France dans le monde en dehors de l'Europe, c'est l'Afrique. Donc de ce point de vue, je pense que c'est la vraie raison pour laquelle il envoie la troupe au Mali et en Centrafrique.
D'ailleurs, vous développez ça dans la fin du livre, d'ailleurs, tenir son rang.
Oui, c'est du Mitterrand, il est gaulo-mitterrandien, quoi.
Alors vous écrivez, et ce sont les dernières lignes du livre, sans l'Afrique, il n'y aura pas d'histoire de France au XXIe siècle, disait Mitterrand. Ça, c'est une phrase d'un livre écrit en 57.
Absolument, oui.
Sans l'Afrique, et ça c'est vous qui écrivez, ça, le Hollande de 2015 se sentirait un nain politique, et tant pis s'il faut s'asseoir sur quelques principes fondamentaux, Paris vaut bien une messe.
Oui, parce que ça veut dire que il faut continuer de serrer la main et de tutoyer des gens qu'on n'aime pas, il faut faire de la réelle politique, il faut pas toujours dire la vérité. Voilà, il faut cacher un certain nombre de choses. Oui. Et alors, il y a des conférences de presse acrobatiques politique. Il y en a une à N'Djamena qui a été compliquée. Hein.
Pourquoi?
Parce que un confrère de France 2, un ancien de RFI pour ne pas le nommer, Gérard Griesbeck, lui a demandé, et l'affaire Ibni. Et là, la réponse est alambiquée, comme c'est très difficile de l'être. C'est-à-dire qu'il faut expliquer que, on n'oublie pas qu'il y a le chef de l'opposition qui a été assassiné, probablement, il a disparu, on ne l'a jamais retrouvé. Mais qu'en même temps, la politique étant ce qu'elle est, on vient à N'Djamena saluer le président en place, Idriss Déby.
En tout cas, ce qui saute aux yeux quand on lit votre livre, c'est cette métamorphose d'un président qui se désintéressait en gros de l'Afrique avant de se lancer dans la politique et qui aujourd'hui est impliqué totalement dans les affaires du continent.
Oui, je pense que c'est lié à l'ambition d'un homme. C'est un homme qui est passionné d'histoire depuis tout petit, qui depuis l'âge de 18-19 ans a envie d'être président. Hein,
Lui aussi.
ses biographes le racontent. Ses biographes de politique intérieure le racontent très bien. Donc c'est quelqu'un qui a une forte ambition à la fois pour lui-même et pour l'idée qu'il se fait de son pays. Je crois que c'est un patriote. Fondamentalement, c'est un social-démocrate. Un sosdem, comme on dit, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui pense toujours pouvoir marier la carpe et le lapin et pouvoir, par une synthèse quelquefois impossible, arriver à ses fins.
Merci Christophe Boisbouvier. Votre livre s'intitule Hollande, l'Africain. Il est publié aux éditions La Découverte et je le recommande, évidemment. Merci.
Merci.
D'être venu nous voir. Une semaine d'actualité réalisée par Sophie Janin. Une émission que vous pouvez aussi écouter sur notre site et que vous pouvez podcaster. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Nous parlerons de l'égoïsme avec le philosophe Dominique Lecourt. Êtes-vous égoïste, vous qui m'écoutez en ce moment même? Je ne peux l'imaginer. L'égoïsme demain donc dans le magazine Idées à 17h10, heure de Paris, sur notre site également en ligne. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.